On poursuit notre série d'entrevues sur le phare, maison de soins palliatifs pour enfants, cette fois avec la directrice médicale du phare, Dr Sylvana Baronnet. Bonjour, Dr Sylvana Baronnet.
Bonjour, Madame Denis.
Merci d'être avec nous. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes directrice médicale du phare?
Mais en fait, j'occupe le rôle de directrice médicale depuis pas longtemps, depuis à peu près la mi-février, lorsque mon prédécesseur, le docteur Jacques Ramsey, a quitté.
Oui.
Donc, ça fait pas longtemps.
C'est tout récent. Alors, félicitations.
Et, merci beaucoup.
Quel est votre rôle en tant que nouvelle directrice médicale du phare?
Oui, donc bonne question. C'est sûr que d'abord, avant tout, je fais partie de l'équipe médicale. Donc, comme les autres médecins au phare, je fais partie de l'équipe médicale, je donne des soins directement aux enfants. Moi, je suis pédiatre de formation et j'ai une formation spécialisée en soins palliatifs pédiatriques. Mm-hmm. En termes de directrice médicale, je vois mon rôle un peu comme un rôle vraiment de consolider et soutenir le développement des meilleures pratiques en soins palliatifs pédiatriques au phare. Je suis quand même assez choyée hein, parce que j'ai une équipe médicale incroyable composée de médecins de famille et de pédiatres. Donc, c'est vraiment une équipe
stimulante,
formidable.
Ouais.
Exactement. Et chaque individu amène vraiment une expertise et une expérience particulière, ce qui fait la force de notre équipe, je crois. Fait que mon rôle, je vois ça un peu comme un rôle de garder des lignes de communication ouvertes pour nous rassembler autour de ce même objectif qui est vraiment de donner les soins de plus haute qualité aux enfants et aux parents qui en ont besoin.
Mm-hmm. Et vous parliez donc que vous aviez... Vous êtes toujours pédiatre et j'aimerais que vous élaboriez un peu sur votre parcours en tant que pédiatre en soins palliatifs.
Mm-hmm. Donc, j'ai grandi à Montréal, j'ai fait ma résidence en pédiatrie au CHU Sainte-Justine et mon tout dernier stage de résidence, donc le dernier mois de mon résidence, j'ai fait un stage de soins palliatifs pédiatriques. Et je pense que j'étais dans ce stage pour un total de peut-être 9 jours dans le mois parce
ah oui.
que c'était le moment des examens du Collège Royal. Mais tout ça pour dire que c'était assez pour allumer quelque chose en moi. Vous savez, en médecine, on est vraiment très bon puis on est formé un peu pour diagnostiquer, pour investiguer, diagnostiquer et traiter.
Mm-hmm.
Et c'est parfait quand ça fonctionne, mais ce stage m'a vraiment mené à réfléchir sur ce qu'on peut offrir aux familles quand on ne peut plus guérir leur enfant, quand la guérison n'est plus possible. Et j'ai vraiment réalisé que dans ces moments, on a quand même un impératif moral, une responsabilité professionnelle de ne pas abandonner ces familles. Puis c'est dans ces moments qui ont le plus besoin de nous, en fait. Donc, c'est là que je me suis dit, moi, je veux être cette personne pour ces familles-là. Je vais être là pour les écouter, pour les guider dans les moments d'incertitude, les moments où ils pourraient facilement se sentir tout seuls dans ce système qui est parfois difficile, mais parfois souvent difficile à naviguer. Dans la situation inimaginable d'un décès de l'enfant, de savoir qu'on a tout fait pour minimiser la souffrance et faire en sorte que ça se passe en sérénité, en douceur, tout en respectant la dignité de l'enfant. Fait que c'est vraiment cette expérience très courte qui m'a quand même poussée à aller poursuivre une formation spécialisée en soins palliatifs pédiatriques.
Ça a été déterminant dans votre choix de carrière. Et il y a encore de la méconnaissance à propos des soins pédiatriques pour enfants. D'ailleurs, vous le dites dans une entrevue qu'on peut lire sur le site du phare. Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir?
Mm-hmm. Je pense que le mythe le plus significatif et le plus répandu, c'est vraiment que les soins palliatifs pédiatriques sont uniquement pour les enfants en fin de vie.
Mm-hmm.
Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, en soins palliatifs pédiatriques, c'est sûr que les soins de fin de vie font partie de notre mandat. Hein. Ça fait partie de ce qu'on fait comme médecin qui donne des soins palliatifs. Mais pour les enfants, il y a une grande variété de conditions qui peuvent mener à un suivi en soins palliatifs. C'est-à-dire que nos patients, c'est des patients qui ont une variété de conditions, que ce soit un cancer, une maladie chronique qui entraîne une fragilité chronique, des maladies complexes génétiques, congénitales. Et nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment une approche holistique, globale et longitudinale. Donc, on veut connaître ces familles, on veut rencontrer ces enfants et les familles tôt dans la trajectoire de la maladie pour pouvoir justement offrir cet accompagnement, cet soutien tout au long de la trajectoire de la maladie et non seulement en fin de vie.
Et Dr Sylvana Baronnet, comment est-ce que les soins palliatifs pédiatriques ont dû être ajustés en ce moment-là au contexte de la pandémie?
Ah mon Dieu, vous
depuis
savez,
un an.
Oui. Je pense qu'on réalise vraiment qu'en énergie dans ce travail que c'est pas parce qu'il y a la COVID qu'on est en pleine pandémie que ça change pas la réalité de ces enfants.
Hein, non, tout
au
à
Québec,
fait.
Qui ont besoin de services. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est que en fait, les familles ont besoin même plus de support. Ils ont besoin de ce support de répit plus que jamais. Et je pense qu'être parent dans la pandémie, c'est un grand défi déjà, de base, hein, parce qu'on parle à des limitations claires entre le travail, la vie familiale, on vit dans l'incertitude. Donc, imaginez ce stress, comment il est amplifié pour des parents d'enfants qui ont besoin des soins 24 heures sur 24. Donc, je pense que notre rôle est devenu d'autant plus important. C'est sûr qu'il y a eu des défis, hein, parce que, oui, je vois bien l'importance de protéger les enfants qui viennent au fort du virus, qui peut avoir des conséquences très, très graves pour eux.
Tragique. Ouais.
Mais exactement. Mais en même temps, je vois tous les dommages collatéraux de la pandémie sur les familles. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines activités qu'on ne pouvait simplement plus offrir. Accueillir toute une famille élargie pour être auprès de l'enfant, c'était plus possible. Mais je vous dirais quand même qu'on a fait preuve de créativité. Comme on fait souvent en soins palliatifs, on a pu faire preuve de créativité et d'innovation pour quand même continuer à offrir plusieurs des services qui nous démarquent au fort et qui améliore concrètement la qualité de vie des enfants.
Avez-vous un exemple?
Mais on a pu continuer à offrir quand même des séances de zoothérapie, de musicothérapie.
Ah oui.
On a entendu beaucoup parler dans la pandémie de la limitation des visiteurs. Hein, dans certains hôpitaux pédiatriques, il y a seulement un parent qui peut être auprès de l'enfant, au chevet de l'enfant. Et heureusement, on n'a jamais dû limiter la présence à un parent, vu qu'on a un mandat particulier. On a quand même pu accueillir les membres de la famille tout en respectant les précautions sanitaires.
Oui, parce que les membres d'une même famille sont considérés comme vivant dans une seule et même bulle.
Exactement. Ouais. Puis on peut pas séparer l'enfant de ses parents. Hein. Un parent, c'est pas un visiteur au chevet. C'est l'essence même de l'enfant, c'est
absolument
la famille. Donc, heureusement, on a pu garder ces liens familiaux intacts.
Tant mieux. Et le phare offre des services aux enfants, mais aussi aux adolescents. Ça, je ne le savais pas. Comment est-ce que ça se passe quand la volonté de l'adolescent diffère de celle de ses parents?
C'est une grande question.
Oui.
Je pense que le principe général, quand on réfléchit vraiment sur la prise de décision chez les ados, c'est vraiment de favoriser l'autonomie émergente. Hein. Les adolescents avec une maladie grave vivent une perte de contrôle importante dans une période de leur vie où ils sont en train de former leur identité, de se séparer de leurs parents. Donc, ils perdent le contrôle sur leur corps, leur vie sociale, les choix qu'ils peuvent faire. Donc, il faut vraiment que nous, on fasse l'effort pour leur remettre un peu de contrôle sur leur traitement et vraiment la façon dont ils veulent passer leur mois, leur année de leur vie. Donc, on travaille très fort là-dessus. C'est sûr que quand il y a une discordance entre la volonté de l'adolescent et les parents, on préconise vraiment une approche de communication collaborative. Donc, essayer vraiment d'amener les parents dans la discussion pour essayer de comprendre les raisons derrière le choix de l'ado.
Est-ce qu'il y a des psychologues au phare?
Donc, on a des intervenants psychosociaux. En ce moment, ça consiste d'une équipe de deux travailleurs sociaux, mais c'est dans les plans futurs d'avoir une psychologue sur place. Heureusement, une grande partie de nos patients ont accès à des psychologues via leur équipe traitante. Par exemple, s'ils sont suivis par une équipe d'oncologie à Sainte-Justine ou au Children's, ils peuvent voir la psychologue de leur équipe traitante, mais c'est dans les plans qu'on ait une psychologue sur place aussi au fort.
Oui, c'est une excellente idée. Vous avez parlé d'autonomie émergente, belle expression, parce que c'est vrai que quand on est adolescent, c'est le moment où on veut se séparer un peu là, de nos figures parentales. Bien, docteur Sylvana Baronne, ça a été un plaisir de parler avec vous. Je rappelle que vous êtes une toute nouvelle directrice médicale au phare, mais avec beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Je vous souhaite bon succès dans vos nouvelles fonctions. Puis merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris du temps pour nous parler donc de votre rôle et de ce qui se déroule au phare.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.